Bien, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Ça en est une belle aujourd'hui. Bien des journées qu'on voit pas passer en travaillant à l'intérieur, loin des fenêtres. J'en ai vu un petit bout aujourd'hui, un beau vendredi, chaud, confortable. Je vous souhaite donc un excellent début de week-end et surtout la plus cordiale des bienvenues à cette autre édition des Amateurs de sport, au cours de laquelle vous entendrez notamment Jacques Villeneuve nous parler de sa victoire aux 500 000 d'Indianapolis. Il est à Monaco, mais ce sont deux grandes courses sur l'échiquier du sport automobile qui se déroulent le même week-end. Alors, on profite de la journée de pause à Monaco pour rebrasser des souvenirs d'Indianapolis, qui est disputée en fin de semaine. Avez-vous entendu parler de cette jeune Québécoise? Elle a 17 ans. Messieurs, écoutez ça, messieurs, mesdames et messieurs, 17 ans, 5 et 8 à peine, elle frappe 280 verges. Vous avez bien compris. Et elle s'en va à l'Omnium féminin des États-Unis la semaine prochaine. Elle sera avec nous tout à l'heure. Bon, dans le cas du combat de boxe de David Lemieux, demain à Québec, ça se complique. Il aura bel et bien lieu, mais ça s'est compliqué à la pesée. Camille Stéphane qui révèle dans la foulée des événements, c'est terminé à 160 livres. Plus de détails tout à l'heure avec Camille et Stéphane en direct. L'analyse de Jacques Thériault et Sébastien Gauthier, vos descripteurs et analystes pour ce gala présenté sur nos ondes demain soir. Philippe Quentin et Vincent Destouches ainsi que Samuel Piette seront également avec nous. Mais d'entrée de jeu, il faut absolument lui parler avant le début de la finale, bien que c'est seulement lundi, et à l'aube de ce week-end-là avec Daniel Brière. Bonsoir Daniel.
Salut Mario.
T'avais gagé combien toi que Vegas affronterait Washington en finale au début de l'année, là?
Beaucoup d'argent.
T'as dû faire la pause, hein?
Ouais. Non, écoute, s'il y a quelqu'un qui essaie de me faire croire qu'il avait vu ça venir en début de saison, j'aurais parti à rire de lui, surtout dans le cas de Vegas. Dans le cas de Washington, c'était pas une équipe qu'on croyait que c'était améliorée après avoir perdu Shattenkirk et quelques-uns de leurs bons joueurs, Justin Williams également. Donc c'est très très surprenant là, de voir aussi Washington, mais c'est une équipe qui on dirait qui est tombée sur une lancée en séries éliminatoires, puis on voit un Ovechkin qui a beaucoup approuvé, surtout après ce qui est arrivé l'an dernier. On sent là un différent Alex Ovechkin. Donc écoute, je suis surpris de les voir là eux aussi.
On était trop habitués de les voir plier les chines, hein. Et d'ailleurs, je me posais la question, je sais que c'est totalement hypothétique, mais bien vite par rapport au marché de Montréal, comment on aurait réagi avec une star de l'ampleur d'Ovechkin de ne jamais atteindre la finale de conférence pendant 13 ans ou 12 ans, parce que c'est sa 13e année à Washington. Dans un marché dur comme Philadelphie, tu t'en as vu, toi t'en as vécu de la pression même, t'es arrivé comme plus haut salarié à Philadelphie. T'imagines-tu un gars, une star de la Ligue, être là pendant 12-13 ans sans atteindre une finale de conférence?
Oui, ben ça, c'est difficile. Puis tu sais, écoute, on le voit, écoute, on peut comparer un peu à un Claude Giroux. Les dernières années, tout le monde à Philadelphie était prêt à se débarrasser de lui. Les fans réclamaient qu'il soit échangé. Puis là, tu vois, il y a une grosse saison cette année, mais dans le cas d'Ovechkin, il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans sa carrière. Faut donner beaucoup de crédit au propriétaire Ted Leonsis à Washington de continuer à le garder année après année. Parce que, écoute, on se plaignait beaucoup dans son cas qu'il n'était pas un joueur d'équipe, que c'était pas un joueur que tu pouvais gagner avec, c'était pas un bon coéquipier. Donc, il en a mangé là des bonnes volées dans les médias là du côté de Alex Ovechkin. Mais il faut admettre là que cette année, c'est un différent joueur en séries éliminatoires. Puis c'est lui qui a pris contrôle dans les deux matchs. D'après moi, là, le match numéro 6 et le match numéro 7, vraiment impressionné par son attitude.
Ben, j'apprécie tes commentaires, d'autant que pour les gens qui l'ignorent encore, Daniel n'a jamais été un fan d'Ovi, surtout quand il jouait contre, n'est-ce pas, mon Daniel?
Ben, on a eu plusieurs altercations, pour le dire, pour être honnête. Donc, c'est sûr que j'étais pas un gros fan de lui comme joueur quand on s'affrontait. Mais là, j'ai vraiment apprécié là, ce qu'il a fait en séries éliminatoires. Je lui lève mon chapeau de ce côté-là.
Qu'est-ce que tu penses de ça, Daniel? Et dans une ligue où il y a 31 équipes, c'est un commentaire, en tout cas, tu vas me suivre. Tu sais, quand un gars se fait accuser, il dit, ben lui, il n'a jamais rien gagné. Tu sais, Ovechkin n'a jamais gagné la Coupe Stanley. Price, il n'a jamais rien gagné. Et donc, tout joueur, toi-même qui a participé à une finale, t'as malheureusement pas réussi à faire partie d'une équipe qui a gagné la Coupe Stanley. Trouves-tu ça chien ou mesquin quand quelqu'un dit ça d'un grand joueur? Ah, lui, il a pas gagné. Donc,
écoute, dans le cas d'Ovechkin, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais dans le cas d'Ovechkin, c'est que moi, ce qui me décevait dans son cas, c'est que il était tellement dominant en saison régulière, puis il arrivait en série, puis là, ça changeait complètement, il était plus le même joueur. C'est ce côté-là que j'avais de la difficulté dans les gros matchs. Ovechkin, au lieu de se présenter puis faire la différence, il disparaissait. Mais là, cette année, c'est le contraire qui s'est passé. Puis, écoute, ça lui a pris du temps à comprendre ça. Mm-hmm. Il y a eu plusieurs chances de le faire auparavant, puis ça fonctionnait pas. Mais là, c'est pour ça. Cette année, je lui lève mon chapeau. Je ne sais pas s'il a appris, il s'est préparé d'une façon différente à affronter ou bien se préparer puis bien se présenter dans les gros matchs.
Mais qu'est-ce que tu vois différent, Dan? Qu'est-ce que tu vois différent de... Effectivement, là, tout le monde est très élogieux, tu l'es toi aussi, mais qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce que tu vois dans son jeu, dans sa façon de l'idée d'être un meneur de son équipe que tu penses qui est tombé en place cette année, là?
Ben, écoute, c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé dans sa tête pour se dire, écoute, là, moi, je vais prendre contrôle des matchs. Mais physiquement, en début de partie, c'est un joueur qui embarque sur la glace puis il a de l'air déterminé. Il veut prendre contrôle du match. Puis, tu sais, c'est facile de se dire ça. C'est une autre chose de le faire. Puis ça, là, c'est ça qui est difficile quand tu arrives à ce niveau-là. Tout le monde va dire, ben oui, je vais faire la différence au prochain match. Mais d'être capable de le faire, ça, c'est pas donné à tout le monde. Puis des super vedettes, t'sais, on parle d'un Sidney Crosby qui, année après année, est capable de performer quand les gros matchs se présentent. Il sort tout le temps les gros matchs, puis pas juste en séries éliminatoires, mais t'sais, on pense à lui, là, son premier match dans le national, des fois quand il revient de grosses blessures, quand il doit performer, il sortait tout le temps avec des gros matchs. Puis dans le cas d'Ovechkin, c'était le contraire, il disparaissait. Mais là, cette année, surtout là, les deux derniers matchs, au match numéro 6, puis il s'est mis beaucoup de pression lui-même en annonçant au match numéro 6 que c'était le plus gros match de sa carrière. Puis il a fait les mêmes commentaires avant le match numéro 7 face à Tampa Bay. Moi, ça m'a impressionné parce qu'au début, je me disais, qu'est-ce qu'il pense dire des commentaires comme ça quand il n'a jamais été capable de performer dans des gros matchs? Mais c'est comme s'il avait compris quelque chose. Puis moi, j'ai été surpris de le voir aussi bien sortir puis prendre contrôle des matchs, autant physiquement qu'avec la rondelle à faire des jeux. Donc, oui, comme je disais, je lui lève mon chapeau à ça.
Avant de t'amener sur la finale, sur Vegas, peut-être juste un petit retour sur l'élimination de Tampa Bay. Jusqu'à quel point tu penses? Ben, c'est une grande déception du côté de Tampa Bay. Es-tu surpris que ce soit éteint ainsi en fin de série? Crois-tu que c'est l'élément physique? Bon, je sais bien qu'ils n'ont pas marqué de but pendant deux matchs. Vois-tu qui a fait la différence?
Oui, moi j'ai trouvé en début de série face à Washington, Washington c'est une grosse équipe. On les a bardassés, on les a frappés. J'ai trouvé que Tampa Bay paraissait petit.
Oui.
Puis la vitesse n'était pas assez pour combattre l'agressivité puis le côté physique des Capitals de Washington. Ils ont été capables de s'en sortir, puis je crois pas qu'ils méritaient de gagner au match numéro 3. Mais ils ont sorti une grosse victoire quand même. Au match numéro 4, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Le seul match où j'ai trouvé que Tampa Bay méritait vraiment de gagner, c'est au match numéro 5. Puis là, à ce moment-là, je commençais à croire qu'ils avaient réalisé, puis leur vitesse était pour prendre le contrôle. Mais au contraire, c'est comme si ils n'ont pas été capables de retourner à ce niveau-là. Puis les Capitals de Washington, en commençant par Alex Ovechkin, sont sortis, ils les ont brassés. Puis les petits joueurs du Lightning de Tampa Bay ont complètement disparu au match numéro 6 et numéro 7.
Ouais, on a senti qu'il y avait moins envie de souffrir. Ouais. Tu sais qu'à un moment donné, il y a quelque chose mentalement. C'est comme un marathonien qui décide de pas se rendre au 42e kilomètre en quelque sorte là.
Ouais, il était prêt du côté de Washington. On dirait j'ai senti dans les deux derniers matchs, je sentais que ces joueurs-là, là, ils sentent que ça arrive, c'est la fin comme de leur destinée. Puis si ça passait pas cette année, écoute, on aurait encore posé beaucoup de questions, puis on aurait peut-être commencé à détruire cette équipe-là. C'est comme si j'avais senti cette desperation.
Ce sentiment d'urgence, ce sentiment de désespoir, d'être acculé dans les câbles.
C'est ce que j'ai senti du côté de Washington plus que du côté de Tampa Bay.
Du hockey désespéré, peut-être aussi, c'est le mot peut-être plus juste que tu cherchais encore. Je lis une remarque, une affirmation de Barry Trotz qui vient de sortir sur les fils de presse. Il participait à des entrevues aujourd'hui et il dit qu'il est blessé par ceux qui ont critiqué Ovechkin. Et dans son affirmation, on comprend qu'il va parler pour son joueur parce qu'il y a comme une fusion entre les deux dans ce qu'ils vivent. Il dit que lui et Sidney Crosby, Ovechkin et Crosby, ont sauvé le hockey, Daniel.
Écoute, ben...
T'as trouves-tu grosse?
Ouais, c'est peut-être un peu fort. Puis, moi, écoute, c'est deux beaux joueurs de hockey, Mais si j'avais encore la chance de prendre, si j'ai besoin d'un joueur pour un match pour gagner, je suis pas prêt encore à mettre Ovechkin dans la même veine que Sidney Crosby. Je pense que Sidney Crosby, pour moi, est encore l'athlète hockey ultime si je veux gagner un gros match.
Une question que j'ai envie de te demander, parce que tu as plein de contacts dans le monde du hockey, à travers les conversations que tu as, sens-tu que ce que Vegas a réussi cette année, là, ils sont en finale, que ça confronte des états-majors de différentes équipes. Tu sais, qui, dans un meeting en préparation de la prochaine saison, avec la déception de ce qu'ils viennent de vivre, disent « Ouais, mais regarde Vegas ce qu'ils ont fait. Ouais, mais regarde Vegas. » L'entends-tu, ça, Dan?
Oui, oui. Puis on le sent un peu tous, parce que tu me poses la question toi-même. Je pense que tout le monde pense un peu de la même façon. Puis là, je pense aux Canadiens de Montréal qui ont connu une saison désastreuse. Je suis sûr qu'on pense la même chose. Si Vegas est capable de faire ce qu'ils ont fait avec des joueurs de troisième et quatrième trio, pourquoi on pourrait pas le faire de notre côté? Je pense que toutes les équipes, en quelque part, vont se poser la même question puis vont se dire, ben écoute, c'est possible. Mais il y a ce côté-là. Tu sais, tous ces joueurs-là ont comme été attaqués un petit peu parce qu'on les a laissés de côté, on les voulait pas dans nos équipes. Ils ont utilisé ça en leur faveur pour vraiment là, passer à un niveau supérieur. Moi, c'est ce que je ressens quand je regarde Vegas jouer. Puis mon impression, c'est que maintenant, puis j'ai gagé contre eux à chaque ronde depuis le début des séries.
Ah ouais?
Mais là, en finale, écoute, j'ai pas le choix, j'y vais avec Vegas.
Ah oui, pourquoi tout à coup, là, tu vires capot?
Ben écoute, je regarde les équipes qu'ils ont affrontées. Ils ont affronté Los Angeles, une grosse équipe physique en première ronde, San Jose en deuxième ronde, un peu plus de talent, mais quand même une grosse équipe physique. En troisième ronde, une équipe encore plus de talent, mais encore une fois, une grosse équipe physique. Puis si on regarde la différence entre Washington et Tampa Bay, moi, je crois qu'il y aurait eu plus de difficultés avec Tampa Bay, une petite équipe rapide, un peu comme eux autres le sont. Parce que Vegas, c'est ça qui est leur force, c'est leur force de frappe, ils ne donnent pas d'espace, ils sont tout le temps sur ton dos. Mais je pense que ça va être à leur avantage et en affrontant une équipe comme Washington, qui est une grosse équipe physique, oui, qui a beaucoup de talent quand même, là, mais qui est axée plus sur le côté physique, qui ont eu du succès depuis le début des séries avec ça. C'est ça qui me porte à croire que ça va continuer de leur côté.
C'est dur de comparer les équipes, mais dirais-tu que Washington, c'est tentant d'établir des comparaisons, Washington-Winnipeg, quand tu penses à la finale, puis il y en a plusieurs qui ont été complètement bouche bée de voir à quel point Winnipeg, finalement, n'a pas été capable de s'imposer contre Vegas. Et penses-tu que Washington a quelque chose de plus que Winnipeg n'avait pas?
Le seul endroit, puis je pense que Winnipeg avait des meilleurs défenseurs que Washington, mais du côté des gardiens de but, je crois que Washington a peut-être un meilleur gardien de ce côté-là. En tout cas, un gardien qui a fait ses classes peut-être plus qu'un Elabioc par le passé. C'est peut-être là le seul avantage que je te dirais. Mais pour le reste, là, c'est des équipes qui se ressemblent beaucoup, moi, je trouve.
J'ai bien hâte que ça commence. Quel spectacle! Sens-tu que ça va provoquer de l'intérêt l'affrontement Washington, quand même la capitale fédérale des États-Unis, Vegas? Bon, c'est Vegas. Sens-tu que les gens de Philadelphie, du Minnesota, les amateurs de hockey partout aux États-Unis, penses-tu qu'ils vont regarder ça?
Ben, du moins, je l'espère. Moi, j'espérais de tout cœur voir Winnipeg. J'espérais voir une équipe canadienne en finale. Mais ça aurait probablement pas attiré du côté des États-Unis le même intérêt qu'une équipe comme Vegas. Parce que c'est une équipe Cendrillon. Tout le monde est intéressé de voir comment est-ce qu'une équipe d'expansion peut se rendre jusqu'en finale de Coupe Stanley. Donc, ça attire beaucoup d'intérêt aux États-Unis. Puis au Canada aussi, j'en suis sûr. C'est sûr qu'il va peut-être avoir plus d'intérêt en ayant une équipe comme Vegas. Washington, de leur côté, ben c'est un gros marché quand même aux États-Unis. Peut-être pas autant dans le monde du hockey, mais c'est une des grosses villes aux États-Unis. Une vedette comme Ovechkin en finale devrait attirer quand même là beaucoup d'attention de ce côté-là.
Certainement. Je pense qu'il donne du oomph à la finale, sans aucun doute. Là. Il amène du star power sans rien enlever à Tampa Bay. Là. Ça aurait donné une finale d'une autre nature. Et peu importe qui va gagner, on le sait qu'il va avoir une belle histoire au bout de ça. Un mot sur, peut-être une petite parenthèse, permets-moi, l'arrivée de Lula Moriello comme DG des Islanders, est-ce que ça change quoi que ce soit, selon toi, l'avenir de John Tavares là ou ailleurs?
Ben, moi, je crois que oui. Je suis pas prêt à dire que il s'en va et il va rester avec les Islanders à 100%, mais je pense que ça devrait aider. J'ai jamais eu l'impression que les Islanders c'est une équipe qui faisait peur à personne. Gard Snow, je suis pas certain que c'était l'homme disons des meilleures situations pour Long Island. Ça fait des années que c'est une équipe qui est comme de milieu de peloton, qui va nulle part, qui s'améliore pas. Puis pourtant, ils ont un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale en Tavares. Puis on l'a jamais bien entouré, j'ai trouvé. Puis je pense qu'il y avait sûrement beaucoup de pression puis de frustration dans le cas de Tavares, de jamais avoir beaucoup d'aide de ce côté-là pour l'aider à jouer, dans le fond. Donc, en amenant un gars comme Lamoriello qui a fait ses preuves, qui a gagné des Coupes Stanley, qui a rebâti une équipe à Toronto les dernières années, je pense que si t'es un gars comme Tavares, tu dois y penser, puis tu dois réfléchir, puis finalement, tu te dis, ben écoute, finalement, on a un homme qui peut bâtir une équipe pour gagner une Coupe Stanley, je dois y penser.
Et une équipe qui a des chances de l'emporter en Coupe Stanley, Vegas, il y en a plusieurs qui parient sur Vegas. Les preneurs au lit favorisent Vegas fortement dans le premier match. C'est très, très difficile de se prononcer sur la suite des choses. Mais ce qu'ils sont en train de réaliser, Vegas, c'est ça à quoi ça me faisait penser. Tu sais, je te parlais des autres DG de la Ligue, les comparaisons et tout. Mais imagine-toi celui qui va avoir la job de DG de la prochaine équipe d'expansion. Accepterais-tu ça, toi, d'être DG de Seattle?
Ben écoute, c'est dur de dire non à un emploi comme ça. Il n'y en a pas beaucoup qui ont la chance d'être DG d'une équipe de la Ligue nationale, mais il n'y a pas de doute que oui, ça amène beaucoup, beaucoup de pression. George McPhee, écoute, il a fait un travail exemplaire du côté. Puis écoute, je sais pas si vous avez réalisé ça, là, les gens au Québec.
Washington, oui.
Oui, McPhee, c'est lui qui a bâti les Capitals de Washington. Donc, il se retrouve en finale avec deux équipes, dans le fond, que c'est lui-même qui a bâti. Écoute, c'est assez impressionnant. Même s'il n'a peut-être pas encore gagné la Coupe Stanley, il a fait ses preuves. Puis là, cette année, ça prouve encore une fois là, que c'est un des meilleurs GM de la Ligue nationale quand tu vois là, que c'est lui qui a bâti ces deux équipes-là qui s'affrontent.
Daniel, tantôt, je cherchais mon idée comme question suivie sur Tavares et je te laisse là-dessus. Tu sais, on dit Tavares va choisir une équipe avec laquelle il va gagner la Coupe Stanley. Quittons-nous avec, si t'es Tavares, c'est qui que tu choisis pour aller jouer avec une équipe qui va gagner la Coupe? Dans les prochaines années, parce que qui choisit prend pire, qu'on dit.
Écoute, c'est difficile à dire.
Veux-tu du temps pour y penser?
Oui, j'ai besoin de temps pour y penser. Tu dois évaluer qui ce qu'il y a de la place, parce que, écoute, c'est pas un secret, là, Tavares va faire au moins 10 millions par année.
Minimum.
Il n'y a pas beaucoup d'équipes là, qui vont être capables de payer ça pour les 7 prochaines années, parce que c'est le contrat, il n'y a pas de doute là-dessus que c'est un minimum de 10 millions. Donc, c'est de penser à ça, premièrement, puis ensuite, les équipes qui restent, qui ont la marge pour signer un gars comme ça, là, il va regarder qu'est-ce qui fait le plus de sens. J'aurais besoin de quelques minutes là, pour regarder ça peut-être un peu plus en détail.
Je vais te donner un petit lousse, mon Dan, on s'en reparle la semaine prochaine.
Parfait.
Salut Daniel. Merci beaucoup. À bientôt. Vincent Destouches après la pause.